voix nue. Cette semaine, Élodie Maillot rencontre Angélique Kidjo. Ce soir, influencée.
Bonsoir Angélique Kidjo.
Bonsoir.
On l'a vu toute cette semaine, la musique et la scène vous ont apporté de nombreux fans, plus d'un million déclarés sur Facebook. Pour Le Guardian, vous faites partie des 100 femmes les plus influentes de la planète. Vous avez chanté pour les puissants, notamment les présidents Obama, Mandela ou Macron. Et vous comptez parmi vos plus grands admirateurs d'autres stars que vous, en Afrique et dans votre pays au Bénin bien sûr, mais aussi ailleurs. Il y a Alicia Keys, Carlos Santana, Gilberto Gil, Bono, beaucoup de célébrités que je ne peux pas citer. Parmi elles, il y a aussi l'archevêque Desmond Tutu qui a fait de vous une de ses égéries. Il dit « Angélique Kidjo incarne cette réussite, celle qui prouve que si les filles sont scolarisées et ne sont pas contraintes de se marier, elles peuvent rayonner. » Ici, Angélique, nous sommes chez vous, dans votre cuisine, au milieu d'une collection de couteaux, de boîtes en plastique, d'épices. Vous rentrez de Suisse, d'Italie, de Toulouse, tout ça en 4 jours. Et puis, vous repartez tout à l'heure à Londres et aux États-Unis. Bon, ça, c'est votre quotidien. On va dire que c'est un quotidien de rockstar, d'hôtel 5 étoiles, un quotidien à faire et à défaire des valises, à repasser vous-même vos tenues de scène, vos magnifiques tenues de scène. On vous connaît donc comme une femme du monde. Mais est-ce que vous êtes aussi une femme d'intérieur ?
Absolument, parce que être une femme du monde, il faut être organisée. Être une femme d'intérêt, il faut être organisée aussi, parce que sinon, ça devient très rapidement ingérable, quoi. Et moi, j'aime bien être que ma maison soit propre. Donc, forcément, j'ai appris à vivre avec une certaine discipline dans mon travail et dans ma vie au quotidien.
Et vous cuisinez beaucoup. Le livre que vous avez écrit, La voix et le miroir de l'âme, se conclut par vos meilleures recettes. Je crois qu'il y a les tartes aux pommes à la rhubarbe, le curry de crabe. Est-ce que, Angélique Kidjo, vous êtes un peu comme le moyo et le piron, ce plat typique du Bénin, c'est-à-dire un plat contrasté qui se compose à la fois d'une pâte de manioc chaude avec de la viande chaude et accompagné d'une sauce froide?
Moi, je pense que tout être humain est complexe. Il y a tout ça chez chacun d'entre nous. Moi, faire la cuisine, c'est comme écrire une chanson. C'est une question d'équilibre d'ingrédients qu'on met dedans. Quand on met trop de sel, on peut pas le manger. Donc, quand on met trop de sucre, on peut pas le manger. Et quand on met trop d'épices, on peut pas le manger. Pour moi, c'est faire la cuisine me rappelle toujours la modération, en fait, qu'on doit avoir dans la vie. Quand on est dans les excès, ça marche plus.
Et ça vous rappelle aussi la cour de Cotonou où vous avez grandi?
Ah oui, ça me rappelle la cour de Cotonou. Il y avait toujours... je sais pas comment elle se faisait, ma maman, avec si peu de moyens financiers. Mais elle avait une organisation assez incroyable. Moi, j'ai élevé un enfant, je trouve que c'est compliqué. Et elle en a élevé plusieurs, au-delà même. Plus que ça, parce qu'il y a des cousins, cousines qui viennent à la maison, comme en Afrique, c'est une smala, une grande smala en fait. Mes copines venaient à la maison, maman faisait manger à tout le monde, les copains de mes frères venaient à la maison. C'était constamment un va-et-vient de personnes. Le fait que des enfants arrivaient à la maison de gens qu'on ne connaissait pas, que les gens laissaient leurs enfants là-bas en partant, sachant que la famille qui devait les mettre à l'école, j'ai grandi avec ça tout le temps. Des gens qui n'étaient pas de ma famille, qui venaient de villages dont on ne connaissait personne. Mon maman arrivait, c'est qui ça? Ma maman m'a laissé ici, elle est partie. Qui elle est? Comment elle s'appelle? On essaie de trouver la personne. Et c'est souvent des jeunes filles. Et puis tu vois un parent qui arrive, ouais, on a laissé là. Et puis, sans explication, dès ses premières règles, il faut l'envoyer au village, on va se marier. C'est là où ma maman m'a dit, ah ouais, d'accord, moi je vais mettre cet enfant à l'école, toi tu viendras la marier. On va voir ça. Donc, c'est comme ça que m'est venue ma passion, en fait. J'ai eu la chance d'avoir grandi dans une famille où aller à l'école était une évidence pour moi. Et c'est pas une réalité pour toutes les filles en Afrique. C'est pas une réalité et c'est pas une évidence pour tout le monde.
Un jour, vous m'avez dit que vous ne faites pas une cuisine de riche, mais des plats conviviaux, parce qu'il faut être beaucoup pour couper les oignons, pour piler la farine. C'est le plat de l'entraide. Est-ce qu'au fond, la musique, c'est ça aussi pour vous? C'est quelque chose de convivial, de familial, on l'a vu cette semaine, mais aussi quelque chose qui doit nourrir et entraider.
La musique et la cuisine ont beaucoup de choses en commun, parce que c'est toujours se retrouver autour d'un repas, c'est une activité sociale. Et c'est très important en Afrique. Quand on va rendre visite à quelqu'un, même la personne la plus pauvre, si elle n'a qu'un bout de pain, elle partage avec vous. C'est ça, la solidarité humaine. Et la musique, c'est ça que ça fait. Ça crée des ponts tout le temps avec ma musique, à la rencontre d'autres musiques aussi. Pas seulement pour le dialogue, mais pour que la musique perdure, en fait. Je suis absolument contre cette logique de pureté, parce que ça n'existe pas dans la nature. La pureté n'existe pas. Les oiseaux, dans la nature, les animaux, rien n'est pur, en fait. Et la pureté est contraire à l'humanité. C'est ça, parce que notre humanité, elle est métissée depuis notre arrivée sur cette planète.
Donc dans votre carrière, vous avez votre carrière musicale, mais pour vous, la musique, c'est aussi aider les autres. On a cette image, par exemple, de Bob Marley ou de Cesaria Evora qui avaient chez eux, dans leur cour, des dizaines de gens qui attendaient des conseils et puis aussi de l'argent. Comment est-ce que ça se passe pour vous? Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Est-ce qu'on vous demande beaucoup de partager plus que de la musique?
On me demande beaucoup de choses, moi. On me demande des conseils, on me demande d'être marraine d'organisation par-ci, par-là. De l'argent, c'est fort, on me demande de l'argent. Moi, ce que je dis toujours, quand on me demande de faire des choses, je dis toujours aux gens, si j'ai pas le temps, je le fais pas. Si c'est pas pour mon nom quelque part et que ça ne sert à rien, c'est pas la peine de mettre mon nom. Parce que quand je m'engage quelque part, fais quelque chose, je le fais. Il y a des obligations avec, et j'ai peu de temps. Entre ma fondation, mes devoirs d'ambassadrice de l'UNICEF, ma carrière, je suis ambassadrice de Bonne Conscience, d'Amnesty International, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Donc je dis souvent non, et avec un pincement au cœur, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire. Je suis dans la période où j'apprends à dire non, et c'est pas facile.
Est-ce qu'au Bénin, vous recevez beaucoup de sollicitations? Est-ce que c'est dur pour vous de rentrer au Bénin? Est-ce qu'il y a des gens qui vous attendent, qui vous demandent des choses, surtout de l'argent?
Mais le Bénin, c'est particulier, parce que les gens... Un amour et un respect énorme pour moi. Donc, je suis protégée, en fait, quand je suis au Bénin. Les gens font attention à me protéger. Et, c'est vrai qu'il y a plein de projets qui arrivent. Et c'est souvent difficile de dire non, parce que il faut le temps, l'investissement, le temps. C'est pas l'argent tellement qui est le problème. L'argent, c'est un outil pour avancer les choses, mais le temps, ça coûte plus que l'argent. Si j'avais le temps, je ferais plus. Peut-être le jour, je serais peut-être à la retraite. Je sais pas si je vais être à la retraite un jour. Mais jamais, j'y pense. Je dis ça comme ça. Mais il y a que de l'amour au Bénin, un soutien énorme, un respect aussi énorme de tous les côtés, que ce soit au marché, que ce soit dans la rue, que ce soit au supermarché, où que j'aille, c'est ça qui me porte, en fait. C'est cette force qui vient de mon pays, qui me porte, et cette admiration. Et c'est une responsabilité que je prends pas à la légère. Donc, je m'engagerai jamais à faire quelque chose chez moi si je peux pas le faire jusqu'au bout. Ça, c'est certain.
Vous parlez de temps et d'argent, de votre rapport au temps et à l'argent. Est-ce que le succès et la célébrité a changé votre rapport à l'argent?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai eu des parents dans ma famille qui m'ont toujours expliqué que l'argent, c'est un outil. Et ma grand-mère paternelle m'a dit un jour, si dans ta vie, tu as le choix entre l'argent et tes amis, choisis tes amis. Parce que ton argent ne sortira pas de la banque pour venir te parler. Il ne séchera pas tes larmes. Tu ne peux qu'acheter les gens pour payer des gens pour faire ce que tes amis feront gratuitement. Et ça, c'est resté gravé dans ma tête.
Parce qu'elle en savait quelque chose, non?
Elle en savait quelque chose, parce qu'à la fin de sa vie, elle avait du commerce, c'est elle qui a commencé les commerces de wax à Cotonou. Elle ne faisait pas confiance aux banques.
Et donc votre grand-mère, elle avait entreposé son argent
une
armoire?
Ah, elle a fait une armoire qui faisait tout le mur. Elle a mis de l'argent dedans. Elle mettait tout son argent dedans. Le jour de sa mort, mon père a été voir chez elle, parce qu'elle avait dit qu'il y avait de l'argent pour l'enterrer. Il a ouvert le truc et tout est parti en confetti, parce que c'était été bouffé par les mythes.
Des millions?
Des millions. Parti en fumée.
Et vous êtes devenue ambassadrice de l'UNICEF sous la présidence de Kofi Annan. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça représentait pour vous?
Moi, d'abord, il fallait que je comprenne ce que c'était. La première question que j'ai posée, c'est ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que je dois faire? Si c'est que j'avais fait de la représentation en serrant les pinces des hommes politiques, c'est pas moi. Vous avez choisi la mauvaise personne, j'y arrive pas.
Surtout, vous aviez une image de l'UNICEF étant enfant.
Ah ouais.
Un peu particulière.
Moi, je pensais qu'on allait me dire, allez, vaccination. J'avais dit, ouais, ça, je connais, parce que j'ai souffert des aiguilles de vaccination. J'ai une phobie des aiguilles à cause de ça. Ma maman tous autant que nous sommes, elle nous a vaccinés. Et elle a profité de l'offre de l'UNICEF pour nous vacciner, pour faire tous les vaccins.
Quand vous étiez enfant?
Quand on était enfant, tous autant que nous étions, parce que notre santé, c'était important pour elle. Et que pour aller à l'école, elle était en bonne santé, il fallait aller au retour sous le soleil tous les jours, jusqu'à ce que les vacances arrivent et recommencer. Elle était vraiment à cheval là-dessus. Elle avait un petit carnet, elle écrivait les dates de rappel, quand est-ce que les camions, l'UNICEF, où est-ce qu'ils allaient se mettre, un truc de fou. Moi, dès que j'étais dans la ville et que je voyais un camion d'UNICEF quelque part, j'allais me planquer. Mais elle me trouvait toujours. Elle me dit, ah, mais tu peux pas te planquer, tu vas faire la vaccin. Mais maman, j'ai pas envie d'y aller. À l'école, on va se moquer de moi. Ah, ben, parce que la plupart des gens dans mon école ne faisaient pas des vaccins. Ils disaient, les vaccins, ça sert à rien. S'il y a que les blancs qui font des vaccins, machin. Je dis, mais moi, maman, elle est pas blanche, pourtant, elle me vaccine. Donc, je suis moins malade que vous, en fin de compte.
Et du coup, quand vous avez accepté, vous vous êtes dit, bon, ben, moi, je vais accepter d'être ambassadrice de l'UNICEF pour faire quelque chose.
Ouais, j'ai demandé ce que c'était. Donc, ils m'ont dit, qu'est-ce que t'as envie de faire? Donc, tout de suite, j'ai parlé de l'enfance, de la jeune fille et de la femme. Et comment est-ce qu'on arrive à changer leur vie? Et par l'éducation et par les programmes qu'on a un peu partout. Donc, moi, je me suis lancée dans la campagne l'éducation primaire universelle. Donc, j'ai fait des annonces pour la radio, pour la télé, en anglais, en français, en d'autres langues du Bénin. Voilà, et j'ai commencé avec l'UNICEF 3-4 mois après. La patronne de l'UNICEF m'a envoyé en fait dans un orphelinat des enfants du sida, et j'avais pas envie d'y aller parce que je savais que ça allait être émotionnellement très difficile pour moi. Et ça a été un des moments où on pleure quand on est une mère et qu'on voit un gamin de 4 ans qui a le sida. C'est même d'en parler, ça paraît aberrant, quoi. C'est pas possible. Ce gamin avait plus de 40 de fièvre à peu près, et dès que je suis rentrée, je sais pas pourquoi, il s'est collé à ma jupe. Je l'ai touché, je m'ai enlevé ma main tout de suite. Je me suis dit, mais cet enfant a de la fièvre. J'ai dit, pourquoi tu ne vas pas te coucher? Il dit, non, moi je veux t'entendre chanter. Je dis, ah ouais, d'accord. Et j'arrive, il avait préparé la cour, il avait mis le plus beau fauteuil, et ils ont pris un sono. J'étais là, je n'y arrivais pas. Il n'y avait pas une note qui sortait de ma gorge. Je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à chanter parce que c'est... Et j'avais des larmes qui coulaient, je me rendais même pas compte que je pleurais. Et puis, le petit gamin, il est venu s'asseoir sur ma jambe. Il m'a fait, tu vas pas pleurer, hein? J'ai dit, non, je vais pas pleurer, mais chanter, ça va être difficile. Et il m'a dit, ah non. Nous, on a préparé tout, on veut t'entendre chanter, hein? J'ai dit, mais ça va être difficile pour moi. Et puis, il se retourne, va vers les gamins, ils ont un cri qu'ils ont. Mototo Kwanza, oye, Mototo. Et tout le monde, tout d'un coup, je me dis, ça veut dire quoi, Mototo Kwanza? Et il me dit, ça veut dire les enfants d'abord. Et il me fait, mais j'ai un message pour toi. Et il me dit, il faut faire savoir au monde que nous, les enfants de ce monde, nous devons être la priorité des adultes. À 4 ans, il me dit ça. Alors là, j'ai recommencé à pleurer. Il dit, ah non, t'arrêtes de pleurer. Et j'ai essuyé mes larmes, je lui ai dit, est-ce que je peux utiliser votre cri de ralliement dans une chanson, pour écrire une chanson par rapport à ce que je viens de voir ici, et pour parler de ton courage, machin. Il me dit, ouais, tout ça c'est des paroles. Je lui ai dit, ah, d'accord, all those are words. Il me fait, et puis il me fait, laisse-moi réfléchir une seconde. Il me dit, tu sais, nous, on est peut-être malade, mais on aime danser et chanter aussi, hein. Donc, si tu écris une chanson qui est une chanson gay et qui fait danser les gens, d'accord. Et après ça, il a fallu que je chante. Ça a été difficile, mais j'ai fini par le faire.
Et finalement, vous avez écrit cette chanson.
Et j'ai écrit cette chanson et Mototo Kwanza, j'ai fait un ska de ça. Et j'ai enregistré cette chanson à Los Angeles. Et le jour où on a enregistré ça, il y avait Ziggy Marley qui était dans le studio à côté, qui travaillait.
Le fils de Bob Marley.
Et puis il est venu et dit, mais il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a personne qui peut faire du ska sur un truc pareil. J'ai dit, ben oui, parce que les enfants veulent danser. Je lui ai raconté l'histoire. Il m'a dit, mon père serait vivant, il serait très fier de ça. Mototo Kwanza, Mototo Kwanza, Mototo Kwanza, Mototo Kwanza. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué à chanter a cappella parce que j'ai mis plein de trucs des enfants dedans aussi. Donc.
Est-ce que donc toutes ces expériences, ces voyages au Darfour, en Éthiopie, en Tanzanie, ça vous inspire alors?
Ça m'inspire, mais c'est difficile, quoi. C'est difficile émotionnellement. Et ça vous rend humble aussi. Moi, je n'arrive pas à me. J'arrive pas à rester indifférente. Il y a des gens qui sont complètement indifférents parce qu'ils se détachent par rapport aux personnes. Je dis toujours que si après plus de 50 ans, d'aide à l'Afrique, nous sommes toujours dans cette pauvreté, c'est que les gens qui viennent avec de bonnes volontés ne nous voient pas comme des êtres humains égaux avec eux. Et qui ne se nous voient pas comme des gens doués de raison. Et on pose pas des questions, on arrive avec des programmes, on veut les imposer. Quand on est pauvre, la seule chose qui vous reste, c'est votre dignité. Et malheureusement, on est dans un monde où même la charité, même pour aller aider les gens, c'est devenu un business.
Oui, en anglais, on dit charity business.
Charity business, ouais. C'est des hedge funds, des fonds pas possibles qui génèrent des profits et qui ne vont pas sur le terrain. Et je sais pas, moi, si ça arrange des gens, si ça les rend heureux, d'accord, mais moi, je m'amuse pas avec la vie d'autrui. Quand je m'engage auprès des jeunes filles en leur disant, je vais faire ceci, je le fais.
Pour faire tout ça, Angélique Kidjo, vous parcourez le monde, les dîners aussi, parfois les dîners mondains, pour parler un petit peu de cette Afrique à laquelle vous croyez. Je voulais que vous nous racontiez peut-être un épisode. En 2012, vous êtes appelé par un de vos admirateurs, c'est Bono du groupe U2. Il vous invite à Los Angeles à un dîner donc un peu mondain sur Sunset Boulevard. Il y a George Clooney, il y a Bill Gates, il y a Sean Penn, il y a Oprah Winfrey, enfin des célébrités qui veulent aider l'Afrique. Comment est-ce que vous vous sentez à ce moment-là? Vous êtes la seule africaine. Est-ce que vous pensez à toutes ces jeunes filles, à vos copines de lycée qui n'ont pas forcément eu la même trajectoire que vous?
J'étais pas la seule africaine. Il y avait Jim Ous, un béninois aussi. C'était très intéressant ce dîner parce que George Clooney et Bono et Brad Pitt, Angelina Jolie, Sean Penn, tous ces gens qui étaient là s'inquiétaient du fait que les gens sont de moins en moins intéressés à donner de l'argent pour l'Afrique. Qu'il y avait une fatigue des donneurs.
C'était cynique ou c'était sincère?
C'était sincère. Parce qu'eux, ils sont au front de ça. C'est-à-dire que... au départ, quand ils ont vu dans l'enthousiasme déjà au départ, quand ils parlaient de l'Afrique, de ce qu'on fait là-bas pour l'eau, l'accès à l'eau, l'accès à la terre, les droits des femmes et tout ça.
Vous voulez dire toute l'époque de des années 90,
exactement.
Band-Aid.
Exactement. Tout le monde était dans le même wagon. Maintenant, quand on en parle, les gens ne sont pas plus vraiment pas intéressés. Et ça qui était l'inquiétude. Donc on en a parlé. Chacun a dit ce qu'il avait, il pouvait faire dans ce sens-là. Quincy Jones qui était là a dit moi je suis un chef d'orchestre. Vous me dites comment organiser les choses qui sont en place et moi je vous mets ça en place. Je sais pas comment. Comme un orchestre, j'organise.
Je fais des harmonies.
Ça, je peux faire.
Vous avez joué aussi devant Donald Trump et le président Macron. Angélique Kidjo, c'était pour fêter l'armistice le 11 novembre 2018. On vous voit sur ces images. Vous êtes littéralement sur le même plan, sur le même sol que ces deux présidents. Vous êtes face à Emmanuel Macron, face à Donald Trump. Comment est-ce que vous vous sentez? Déjà, comment vous êtes arrivé là? Parce que c'est, j'imagine, dans votre carrière, un moment quand même assez particulier aussi.
Mais le 11 novembre, moi, j'ai accepté cette invitation du ministère des Armées. Ce n'est pas le président qui m'avait invité, je tiens à le dire. C'est le ministère des Armées qui m'avait contacté un an avant. Et moi, j'ai dit, si c'est pour rendre hommage aux soldats africains qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, je suis dedans. Parce que les commémorations sont 100 ans après la Première Guerre mondiale. Combien d'Africains ont été sous l'Arc de Triomphe pour rendre hommage à ces Africains qui sont venus mourir pour que les Français aient la liberté qu'ils ont, que l'Europe soit libérée et que nous vivons dans un monde un peu plus en paix. Moi, pour moi, c'était tout ça. Mon message ce jour-là, c'était la guerre peut être tentante, mais moi, je suis pour la paix. Tous, autant que nous sommes ici, on peut vivre ensemble. Moi, c'était mon message. J'étais dans ce message de paix et le reste, j'en ai rien à faire. Si quelqu'un se sent insulté parce que j'ai chanté, parce que je suis noire, c'est le problème de la personne. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Je n'en ai jamais eu.
Comment vous êtes sentie à ce moment-là devant le président américain, le président français?
Il faisait froid, déjà, pour commencer. avec du vent qui chargeait aussi de la pluie. Moi, mais comment on se sent devant d'autres êtres humains? Ils ont quel pouvoir ils ont? Le pouvoir qu'ils ont, c'est les peuples qui leur ont donné. Ils ne sont pas arrivés là, tout simplement en marchant, en disant « je vais être président ». C'est le peuple qui leur a donné. Et il faut leur rappeler qu'ils ont leur devoir, ce n'est pas leur ego, ce n'est pas leurs intérêts, c'est l'intérêt des peuples. Ce message-là, s'ils ne l'entendent pas et qu'ils continuent à faire pareil, eh bien tous les peuples seront dans les rues. Parce qu'un jour, ils diront, mais c'est où la démocratie? Si je vote et que ma voix ne compte pas, si on m'empêche de voter, parce que si, parce que ça. Pour moi, c'est pour éviter tout ça en amont que je touche dans cette logique de consensus. Comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble, même quand on n'est pas d'accord? Mais même quand on n'a pas les mêmes valeurs morales, on peut toujours parler et avancer dans le bien de la communauté humaine que nous sommes.
Vous étiez fière d'être à cet endroit-là, à ce moment-là ?
Absolument. Pourquoi pas ? Je suis une citoyenne du monde. J'ai voyagé dans le monde entier. Et qu'est-ce que j'ai remarqué dans mes voyages ? Toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu parler, même quand je ne parle pas les langues, ce qui est important, c'est que les gens, leur famille soit en bonne santé, leurs enfants soient éduqués, qu'ils aient 3 repas par jour sur la table et qu'ils puissent avoir des loisirs de temps en temps. C'est la chose la plus fondamentale. Le reste, c'est du superflu. Tant qu'on est en bonne santé et qu'on peut se dire, j'ai un peu d'argent de côté pour aller en vacances avec ma famille, tout le monde va bien. Et quand on n'a pas ça, l'exemple de quelque chose qui est fondamental, c'est que quand on ne peut plus acheter du pain, c'est la révolution. Pourquoi est-ce que ce pain qui ne coûte pas cher est si symbolique ? Parce qu'on peut manger du pain avec moins de 2 euros.
Sans parler de révolution, est-ce que cette participation à ces cérémonies du 11 novembre 2018, donc 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, vous ont valu des critiques ?
Ah oui.
Qu'est-ce qui s'est passé après ?
Ben, il y aura toujours des gens qui n'aiment pas... souvent, c'est des racistes, en fait. C'est la nouvelle mode. Internet est la plateforme des haineux, et donc ils se retrouvent tous pour raconter des bêtises.
Qu'est-ce qu'on vous a dit ?
Bon, que c'était une honte qu'une Africaine vienne chanter là. Les gens, c'est l'ignorance, en fait, qui les fait parler. Et c'est là où je me dis, on a une carence énorme dans l'éducation en France par rapport à notre histoire africaine. Et tant que ça ne sera pas dans le cursus scolaire que les gens apprennent ce que le reste du monde doit à l'Afrique, on sera toujours dans cette rhétorique-là. Donc les gens qui disent, oh, c'est dommage que ce soit une Africaine qui machin et tout.
Comment vous l'avez pris, vous ? Tout ça, toutes ces critiques, toute cette haine qui...
Mais c'est triste. Moi, ça ne me met plus en colère. Je suis triste de l'ignorance des gens. Parce qu'on se dit, on a Internet, aujourd'hui, on a accès à l'information tout de suite. On peut savoir ce qui fait ceci, ce qui fait cela, machin, ceci. Mais Internet rend les gens bêtes, pas plus intelligents. C'est ça le truc.
Angélique Quijot, je voulais que vous nous racontiez ce que vous aviez ressenti lorsque vous avez chanté pour l'intronisation de Barack Obama.
Moi, on m'a demandé bien avant qu'il ne soit élu de chanter dans le bal des Africains pour le président qui allait être élu. Je savais que c'était lui. Moi, je me dis oui, pourquoi pas. Je savais que, quoi qu'il arrive, Bush ne serait plus là parce que c'était son deuxième mandat. Donc, je ne prenais pas beaucoup de risques en disant oui. Donc, voilà. Ça a été intéressant parce que le moment qu'on a passé sur l'esplanade à Washington, c'est le seul moment depuis que je suis aux États-Unis qu'on sentait cette connexion humaine. C'était incroyable. Il n'y avait pas de différence, on se parlait. C'est un truc, quelqu'un l'aurait écrit en scénario, c'était possible à jouer. C'est un truc de fou. Il y avait une communion totale de blancs, des noirs, des jaunes, des verts, tout ce qui était là. Et c'est incroyable. J'avais froid, mais je ne pouvais pas.
C'était en janvier.
J'étais en janvier, il faisait un froid de canard. Mais je suis restée scotchée. C'est ma fille qui m'a dit, « Maman, tu te rends compte ? Un noir à la Maison Blanche. » Et puis elle me dit, « Non, maman, ce n'est pas un noir, c'est un métis. C'est encore mieux, l'avenir appartient aux métis. » Et elle a raison. Parce que nous sommes métissés tous. On ne peut pas refuser ce métissage-là. Quand on fait nos textes ADN, on va voir qu'on est métissé de partout. Et pendant cette soirée, j'ai rencontré plein de gens, Harry Belafonte, je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ce président pourra signifier pour l'Afrique ? Il a dit, on attend pour voir. C'était une réponse assez diplomatique. Et il y avait un espoir incroyable pour notre humanité. Et cet espoir, on l'a payé. Qu'on a eu le courage d'avoir cet espoir, on l'a payé avec l'élection de Trump aujourd'hui.
Qui est due pour vous, l'élection de Barack Obama ? C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le backlash.
Parce que j'avais une amie qui me disait, on est tous contents que Barack Obama soit élu, mais on le perd très cher. Et je lui disais, oh, mais toi, arrête, tu vas pas nous plomber maintenant. Hein. Elle m'a dit, vous allez voir, moi je connais mon pays. C'était une Américaine qui me disait ça, une blanche. Elle n'avait pas tort.
Est-ce que l'élection de Barack Obama a changé quelque chose pour l'Afrique ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas.
Angélique Kidjo, on l'a vu tout au long de cette semaine, vous êtes allée partout dans le monde, vous avez rencontré des gens très connus, d'autres moins connus, qui vous ont fait pleurer, qui vous ont aimé, qui vous ont donné. Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous vous êtes dit « je suis arrivée là où j'avais envie d'aller » ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne vous dites jamais ?
Non, je ne sais pas où je vais, moi. Parce que quand on dit ça, ça veut dire qu'on est prêt à mourir. Et moi, je vais vivre encore longtemps. C'est la blague entre mon père et moi. Mon père qui disait « on ne sait pas où la tête amène les pieds ». Je lui disais « papa, et si c'est les pieds qui amènent la tête ?» Il a dit « tant que tu n'auras pas la réponse, ça veut dire que tu peux vivre longtemps pour toujours la réponse ». Donc pour moi, c'est ça, je ne vais pas. Je sais d'où je viens, je ne sais peut-être pas où je vais, mais j'y vais. J'y vais avec beaucoup de bonheur, beaucoup de courage.
Et, beaucoup d'énergie.
Et beaucoup d'énergie, bon, parce que j'ai remarqué que les gens qui sont passionnés comme moi, on dérange beaucoup. Parce que tout le monde veut vivre une vie où, sans passion. Et sans passion, c'est là où on a des problèmes. Chacun doit trouver sa passion. Que ce soit la broderie, que ce soit la couture, que ce soit... Il faut qu'on ait une passion qui nous permette, qui nous justifie notre vie. Et moi, ma passion, c'est la musique. Et je suis passionnée par
les gens.
Et les gens. Et la famille humaine que nous sommes, je suis passionnée par ça. Je suis passionnée par nos différences. Et en même temps, le fait qu'on soit unique. Et le fait qu'on soit toujours... On peut toujours se parler. C'est un truc de fou. L'être humain est complexe. C'est infini, un être humain. Mais en même temps, mais quel bonheur. Quel bonheur, quoi. Je n'aimerais pas... je suis bien contente d'être née être humain, pas un insecte ou pas. Je ne sais pas ce que j'étais avant. Mais c'est un défi constant, mais j'adore ça.
Est-ce que vous pensez à la mort, parfois ?
Je donnerai l'exemple du deuxième prénom de Fela. Il s'appelle Fela Anikulapu Kuti. Anikulapu, ça veut dire celui qui marche avec la mort dans sa poche. Tout ce que nous sommes, nous marchons avec la mort. La vie est à côté de la mort. C'est les deux faces d'une même pièce. Donc, je ne pense pas à ça. Mais si ça m'arrive, si c'est ce que j'ai demandé, je n'ai pas peur de la mort. Non, ça, c'est certainement pas, non. Tant que je suis en bonne santé, moi, tout le monde me dit que j'ai de l'énergie. Je dis toujours aux gens, allez voir ma maman. Hein. Si ma maman encore a bientôt 93 ans, a de l'énergie, moi, j'ai encore du chemin à faire. Hein.
Merci, Angélique.
Merci.
Fin de cette rencontre d'Élodie Maillot avec Angélique Kidjo. À voix nue, réalisation Anaëlle Brouard, prise de son Élise Leu, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et ce podcast est sur franceculture.fr.